Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous aidions les jeunes mamans à reprendre le sport et la course à pied après la naissance de bébé? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de course à pied, de mouvement, de reprendre le sport, hein, parfois après un long arrêt, ou parfois, bah, ou comme aujourd'hui, après un arrêt de quelques mois, ou peut-être plus que quelques mois, parce que c'est ce que nous allons voir avec mon invité du jour. C'est une thématique que je voulais traiter, mais que je ne peux pas traiter seul, parce que bien sûr, je ne peux pas le vivre, ou en tout cas, je ne peux le vivre qu'en tant que spectateur. Et pourtant, elle me questionne beaucoup, et je sais à quel point elle est importante pour vous, mesdames, mais aussi pourquoi elle peut être importante aussi pour les messieurs hein, qui écoutent ce podcast. Ma fille aura bientôt 3 ans et demi, et ma femme n'a toujours pas pu recourir normalement depuis son accouchement, et il y a une douleur qui persiste, et donc ça fait maintenant 4 ans que ma femme ne peut pas vraiment courir pendant que moi je gambade. Elle adorait courir, mais elle peut pas courir. Et moi, j'ai juste fait une petite couvade et pris quelques kilos. Et en fait, je trouve ça vraiment injuste pour elle. Et c'est pour ça aussi que je pense que les hommes, hein, vous devriez aussi écouter cet épisode, car vous comprendrez aussi ce que vivent nos compagnes quand elles accouchent, quand bébé arrive. Qu'est-ce qui change pendant la grossesse? Qu'est-ce qui change après? Quels sont tous les changements? Et quelle est la difficulté justement à reprendre après la naissance d'un enfant? Pour cet épisode, j'ai invité quelqu'un qui connaît très bien le sujet, elle s'appelle Elsa Dunaigre. Alors elle a plusieurs casquettes dans son quotidien, ou je devrais dire plusieurs positions si je devais faire le lien avec le yoga qu'elle pratique assidûment depuis des années. Car Elsa est enseignante, sportive, prof de yoga, maman, et même enceinte du deuxième quand on enregistre cet épisode. Et elle est créatrice de contenu, sur son compte elle parle de yoga mais aussi de maternité et de course à pied. Vous trouverez d'ailleurs sur son site, hein, elle prépare un programme complet sur la reprise, comment on fait pour reprendre. Elle a déjà publié sur son site des étapes essentielles pour la reprise de la course à pied après un bébé. Et justement, on a parlé de ces étapes, de qu'est-ce qu'il faut faire, de comment reprendre, hein, qu'est-ce qui se joue justement, quelles sont les difficultés pour reprendre, pourquoi c'est compliqué. Nous avons aussi discuté des accompagnements, des programmes qu'elle est en train d'imaginer parce qu'elle est aux premières loges, donc elle a déjà vécu ça une première fois, elle va vivre ça une deuxième fois, et justement, comment elle va mettre en place ce programme-là pour accompagner d'autres mamans à pouvoir elles aussi reprendre le sport beaucoup plus facilement parce qu'elle sait à quel point ça lui fait du bien à elle, à quel point c'est important pour elle et à quel point c'est important aussi pour toutes les mamans qui ont besoin aussi de s'évader, de trouver un espace de respiration parce qu'on a parlé de ça aussi. Parce qu'on n'a pas parlé seulement de grossesse, d'accouchement, de ce qui se passe pendant et après, on a aussi parlé finalement de l'importance du sport. Ça fera un lien avec l'épisode de la semaine dernière sur avec les hamsters parce qu'il y a des thématiques que vous allez retrouver puis ça fera aussi un lien avec un futur épisode que l'on va préparer où je réunirai que des mamans pour parler vraiment que des sujets autour de la maternité, de la course à pied. Et puis, bien entendu, on a aussi parlé de yoga. Et là aussi, c'est un sujet que je vais creuser très prochainement parce que c'est vraiment un sujet, vous savez, que j'apprécie particulièrement parce que moi-même, j'en pratique un petit peu tous les matins. Mais avant de vous laisser avec ma discussion avec Elsa, je voudrais vous faire mes rappels habituels, que vous en avez l'habitude, mais si vous découvrez le podcast, je vous rappelle que vous pouvez partager le podcast sur Instagram avec le hashtag KM42podcast et mon compte @BertrandSoulier. Vous me taguez comme ça, puis comme ça, je repartage. Vous pouvez me montrer où vous courez, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos séances et autres. Et moi, je repartagerai ça avec plaisir dans mes stories. Si vous m'écoutez aussi sur Spotify, je vous rappelle que vous pouvez partager directement en story et même d'ailleurs le segment qui vous intéresse le plus, marquez directement quel est le passage qui vous intéresse le plus, donc vous pouvez partager ça directement en story avec les 3 petits points tout en haut à droite là, hein, vous faites défiler, partager en story sur Instagram. Vous pouvez aussi partager bien sûr le podcast avec vos amis, si vous connaissez une maman ou un papa et vous dites bah tiens voilà il faut absolument que tu écoutes cet épisode, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail ou même carrément vous piquez son téléphone et vous lui installez l'application de podcast, vous l'abonnez au podcast pour qu'il écoute l'épisode, vous le téléchargez, vous mettez ça directement dans les oreilles. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me soutenir dans mon rêve de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde, par le biais par exemple de Patreon. Vous pouvez me soutenir à partir de 1€ par épisode et vous obtiendrez les épisodes sans la pub, les épisodes en avance et puis aussi le journal d'entraînement qui est le podcast privé tous les lundis dans lequel je vous explique un petit peu plus les coulisses, où je vous donne aussi mes séances, ce que j'ai fait et autres, des choses que je ne donne plus forcément systématiquement dans le podcast car en fait il y a plein d'informations et ça ferait beaucoup trop de choses et ben je les partage en privé. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a la chaîne YouTube du Hamsters Running Running Club, qui a aussi bien sûr le Hamsters Running Club, qui est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis. Que vous soyez maman ou papa, ben voilà, vous trouverez toujours de l'écoute, des conseils bienveillants pour vous aider à progresser et vous lancer dans de nouveaux défis. Ceci étant dit, il est maintenant temps pour moi de vous laisser écouter ma discussion avec Elsa. On enfile les baskets. Allez, c'est parti. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci Bertrand.
Alors, je vais le dire, parce que moi j'ai l'image et que les gens nous écoutent. Là, tu es confortablement installé, tu as trouvé une bonne position. Je le dis tout de suite parce que c'est notre sujet en fait. Tu es enceinte et tu m'as dit que tu n'es pas très loin du terme.
Ouais, je suis à 7 mois là, c'est pour dans 4 semaines théoriques.
Oui, alors en plus on a un décalage, tu sais, sur l'enregistrement, ce que je t'expliquais juste avant. Donc on va s'en rapprocher, hein, voilà. Alors moi je le dis, on enregistre le 17 mai, donc le 17 mai tu n'as pas encore accouché. Au cas où, dans les dates de publication, il pourrait y avoir un décalage. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment le sujet du jour et c'est un sujet qui intéresse toutes les femmes qui écoutent ce podcast. C'est justement le yoga, oui je vois yoga pour maman runneuse, mais j'introduis, mais vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire du sport quand on est enceinte, comment on fait pour la reprise, etc. Et donc je vais d'abord te demander de te présenter pour dire un peu qui tu es.
Donc moi je suis Elsa, j'ai 37 ans, j'ai déjà un fils qui a 3 ans, et donc là je suis enceinte d'une petite fille qui devrait bientôt arriver. J'ai deux métiers. Je suis enseignante à l'éducation nationale dans un lycée professionnel et je ne travaille qu'avec des garçons. On aimerait bien des filles, mais je n'ai que des garçons. Je fais de la maçonnerie dans un atelier, donc je porte des parpaings, je fais du béton, du coffrage, du ferraillage, tout ça. Et puis à côté, je suis prof de yoga et donc je me suis spécialisée pour le yoga pour non pas les femmes enceintes, mais vraiment pour les mamans qui souhaitent reprendre la course à pied après avoir eu un enfant.
Attends, là j'ai un truc qui est accroché. Ton métier en fait, c'est la maçonnerie?
Ouais.
Alors tu sais, moi je suis un peu curieux comme ça, je me dis juste, quelle est la tête des garçons quand ils doivent débarquer dans leur lycée là?
Alors au début, ils n'ont pas forcément à l'idée que ça va être moi leur prof d'atelier. Parce que quand j'arrive au lycée, je suis plutôt en robe ou en jean moulant ou en talon ou ce genre de choses. Voilà, comme une prof entre guillemets plus classique. Et ils vont se poser la question sur la première heure d'atelier, mais en fait après, je suis une prof comme les autres.
Ouais.
Donc ils s'en fichent, on prend une truelle et c'est parti. Au début, je pense que ça a posé plus de entre guillemets problèmes à certains collègues qu'à certains élèves. Et en fait, là, ça fait 10 ans que je suis dans le même établissement et ça se passe super bien, c'est génial.
D'accord. Alors, comment t'es arrivée au yoga, en fait?
Alors moi, je pratique le yoga depuis que j'ai 23 ans. J'ai découvert complètement par hasard quand j'allais voir un ami aux États-Unis. Il me dit, tiens, il y a un cours de yoga dans la fac où il était, donc on y va. J'ai pas forcément compris que c'était du yoga, c'était bien. Pour moi, c'était entre et de la gym et des étirements et de la respiration. Mais c'était dynamique, c'était un vinyasa assez dynamique. Je me suis dit, tiens, ça me plaît. De retour en France, je cherche un cours et je trouve pas forcément ce que j'aime. Donc j'arrête un moment. Et c'est la maman d'une copine qui me dit « Ah, je rentre de mon cours de Bikram, c'était génial, ok. » Elle me dit « C'est intense et en même temps, quand tu ressors de là, t'es complètement ailleurs. » Je fais « Bon, je vais essayer. » Et effectivement, j'ai accroché à fond. Donc, je me suis mise à fond dans le Bikram. Et il y a un des profs de Bikram, vraiment, qui était le prof que je préférais, qui faisait aussi du Vinyasa dans notre studio, etc., que j'ai continué à suivre, qui m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit que c'était quelque chose qui me plaisait, que j'étais déjà dans l'enseignement, que j'aimais transmettre, que tout ça, et que j'avais envie d'aller plus loin dans ma pratique perso, et du coup de me former pour l'enseigner aux autres.
D'accord. Et donc tu cumules en fait les deux activités entre maçonnerie d'un côté en lycée et yoga à côté ?
Ouais, exactement. Pour l'instant, j'ai un temps plein en tant que professeur. Et je donne des cours le soir et le week-end. Le soir et le week-end. Et là, du coup, le but avec deux enfants, ça va peut-être être de diminuer un petit peu les heures au lycée, peut-être un 80% dans un premier temps, pour pouvoir continuer à donner le même nombre d'heures de yoga, et puis peut-être à terme faire du 50-50, mais il n'y a pas d'objectif d'arrêter l'un ou d'arrêter l'autre.
D'accord. Et donc dans tout ça, la partie course à pied, quelle place ça prend?
Alors, pour l'instant, ça n'en prend plus. Ça a longtemps pris toute la place parce que j'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 5 ans à l'école d'athlétisme juste à côté de chez moi. Donc j'ai longtemps fait toutes les compétitions, poussin, benjamin, minime, etc. Et c'était top. Enfin, on découvre plein de choses, sauter, lancer, courir, un peu la base de tous les sports. Ensuite, au lycée, j'étais en sport-études en Bretagne à Vitré. Où j'ai pas forcément percé, j'ai pas forcément eu les résultats que j'attendais. Je passais d'un environnement familial très sain à une vie à l'internat, je veux dire avec. Bon, j'ai adoré, hein, mais au niveau de l'alimentation en pleine poussée adolescente, la prise de poids et les hormones et ce genre de choses, c'était pas forcément simple à gérer. Et puis, j'avais tout simplement pas les résultats attendus, donc j'ai pas fait forcément ce que j'aurais aimé. Et ensuite, donc j'ai arrêté après le lycée. J'ai fait d'autres sports et en fait, je suis revenue à la course parce que c'est ce que j'aime. Mais plus du coup l'endurance. Toute seule un peu entre guillemets sur bitume. Et puis avec les groupes, moi je suis sur Paris maintenant avec les groupes Adidas, etc. Pour ne pas faire de pub et pour ne citer qu'eux. Et puis j'en ai eu assez du bitume, j'avais mal aux genoux. Et c'est là que j'ai repris le yoga, pardon. C'est là que j'ai découvert du coup le Bikram et que je me suis rendu compte que les deux en même temps, ça diminuait mes douleurs, que ça me faisait du bien aux articulations, que ça m'aidait à récupérer. Enfin, il y en a qui vont dire que ça aide pas à récupérer. Moi, j'avais cette impression-là, en tout cas. Et que je me sentais bien et que j'avais besoin des deux. Si je faisais que du yoga, il me manquait quelque chose. Que de la course, il me manquait quelque chose. Et après, je suis venue au trail. Parce qu'une copine en faisait, qu'elle m'a invitée sur une course, la Maxi Race à Annecy, qu'on a fait en relais à 4. Et elle me dit, oui, vas-y, tu fais la dernière partie à 10 km, pas de souci. Sauf que le jour où je suis arrivée chez elle, elle me dit, non, en fait, la copine qui devait faire les 25, elle n'est pas prête, du coup, tu vas faire les 25. Mais en fait, moi, je me suis préparée pour 10. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, voilà, c'était comme ça. Et j'ai trouvé une association à côté de chez moi. Et il y a quand même pas mal de bois, finalement, autour de Paris où on peut courir. Bon, il faut se déplacer un peu. Mais il y a de quoi faire et c'est chouette. Donc
Et c'était quoi ta
voilà.
discipline de départ en fait quand t'es parti en sport-études?
Les platelons.
L'heptathlon. Ah oui, mais alors tu
Ouais.
maîtrises tout en fait.
Non, c'est peut-être justement le problème, c'est que j'ai voulu faire trop de choses et que j'ai été performante dans rien. Donc vraiment, je pense que je suis bonne dans rien, mais que j'aime tout et que l'ensemble faisait que c'était, on va dire, correct.
Dans les heptathlons, il y a de l'endurance. C'est quoi la distance?
C'est un 800 mètres pour les filles.
Ah oui, c'est court.
C'était horrible pour moi. J'avais l'impression d'être en lactique tout du long sans y être vraiment. Enfin, l'enfer, c'était l'enfer.
Ouais, en fait, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas couru ces distances, c'est vrai que c'est des distances terribles. Les
C'est
400, les
violent.
800, c'est violent, quoi.
Ouais.
Et donc, alors, moi, attends, cette histoire, ta copine qui te met sur le 25 de la Maxi Race, quand même,
Ouais.
elle a eu du bol que t'adores, parce que t'aurais pu l'écharper si ça avait été terrible.
Ouais, et en même temps, je crois que j'aime tellement relever les défis que je me suis dit, vas-y, de toute façon, la copine, elle est encore moins prête que moi, tu cours pour une équipe. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'en fait, je sais pas si toute seule je l'aurais fait, j'en sais rien. Mais c'est vraiment le côté, vas-y, il y a les copines qui t'attendent, quoi. Enfin, il y en a une qui était avant toi, qui a tout déchiré, qui a tout donné. Et c'est parti. Alors, elle m'avait coaché un peu en mode, au début, les 3 premières montées, tu te gères. Et la dernière, vas-y, tu lâches les gaz, ouais, sauf qu'il n'y a plus de gaz, quoi. Mais incroyable, incroyable.
Derrière cette expérience, t'as persévéré, t'as fait d'autres courses, t'as fait d'autres choses?
Alors, j'ai refait la Maxi Race, du coup, avec elle, où on a changé
L'ordre.
l'ordre, en fait, des coureuses entre-temps. Et puis, quelques petites courses aux alentours de Grenoble avec d'autres copines. Après, il y a quelques trails en région parisienne qui sont intéressants. Moi, je suis originaire de Bretagne, donc c'est pareil. Dès que je rentre dans ma famille, j'ai ma copine avec qui on va forcément courir le long des chemins des douaniers. On est aux alentours du Cap Fréhel et on se régale. Enfin, on a vu sur la mer, on a des couleurs, là, les bruyères, là, les. Donc voilà, c'est un peu les coins où je. Et je m'entraîne et je fais quelques courses.
Bon, bah décidément, ce podcast, il y a un truc avec la Bretagne, parce que j'ai que des gens qui sont en Bretagne. Bon, je fais pas exprès, hein, mais en plus avec les partenariats avec Apiron, etc., ils sont en Bretagne, donc il y a plein d'invités en Bretagne. Et à un moment donné, tu vois, je me prends professeur de yoga à Paris et je tombe sur quoi? Sur une bretonne. Bon, bah écoute, hein,
C'est le destin.
c'est le destin. Moi qui suis en Auvergne, bien loin, mais on dit qu'on se ressemble un petit peu par certains aspects, je vais finir par le croire. En tout cas, on semble s'attirer en ce moment. Et je trouve ça super drôle parce que tu m'aurais dit que tu aurais fait telle ou telle course. Je t'ai pas demandé si t'as fait des courses en Bretagne, des trails particuliers.
Ouais, c'était un des derniers. C'était. Je n'ai plus la date, c'était Dunes et Bouchaux. J'ai plus la date, c'était, bah écoute, mon fils avait 1 an et demi, donc il y a 1 an et demi. Voilà, c'était la dernière course, entre guillemets, vraiment dossard compète que j'ai pris.
Bon, de toute
Voilà.
façon, depuis, il
Ouais,
n'y a plus
voilà.
rien. Enfin, alors là, vraiment, sur ce coup-là, si tu avais voulu le faire exprès, c'est bien calé. En tout cas, il n'y a plus grand monde.
C'est pas que fait exprès, mais c'est vrai que ça tombe bien.
Ça tombe bien par rapport au dossard, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on espère, on va croiser les doigts pour que ça reprenne. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, tu disais, on va pas faire l'épisode sur le yoga en lui-même, parce que j'ai prévu un autre épisode sur le yoga, on en parlait juste avant d'enregistrer. Mais quand même, on va dire quelques mots. Toi, tu trouvais que le yoga par rapport à la course, c'est quelque chose qui était complémentaire?
Ah, complètement. Moi, je c'est vraiment comme ça que et je m'épanouis bon dans ma tête parce que je sens que j'en ai besoin, mais mon corps me le réclame. C'est vraiment un équilibre.
D'accord. Alors là, je vais te demander de creuser parce que moi, tu sais,
Ouais.
moi, le yoga, j'ai un truc. Ça fait 1 an et quelques que je fais du yoga tous les matins. Bon, là, un peu moins avec mon opération du genou depuis quelques temps.
Ouais.
Et quand j'ai fait ma rééducation pour mon genou, ma kiné m'a dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi raide. Alors j'ai dit, là, il y a un truc, tu vois, ou alors j'étais encore tellement plus raide au départ, etc. Et pourtant, je le dis, hein, c'est que j'ai travaillé, moi, je vois l'intérêt, tu vois, et puis j'ai dit, je vais faire des épisodes sur le sujet. Mais toi, vraiment, qu'est-ce que tu vois comme complémentarité, tu vois, comment tu. Quelqu'un te dit, tu vois, vraiment, tiens, pourquoi tu me conseillerais de faire du yoga après, si je fais du sport, si je fais de la course, etc. Qu'est-ce que tu lui dis vraiment?
Ça dépend de plein de choses. Si la personne elle me dit ça sert à rien, je lui dis bah c'est vrai que tant que t'as pas essayé, ça peut pas servir. Après, ce que moi je retrouve dans le yoga, ça va être du renforcement,
D'accord.
clairement. C'est quand même des postures. Alors en fonction du yoga que tu choisis, hein, peu importe. Vraiment, je pense qu'on peut avoir du renforcement dans tous les types de yoga. Tenir une posture, ça va te faire travailler ton mental. C'est vraiment, bah, tu tiens une respiration, ok, mais t'en tiens deux, t'en tiens trois, t'en tiens cinq, t'en tiens plus. Et ben, bah, t'es obligé de te concentrer sur ce que tu fais et de te dire, ben bah, non, je suis plus forte que ça, je suis bien plus forte que ça, je vais encore continuer, je vais encore tenir. Et finalement, il y a des courses ou des entraînements où t'as pas le choix. C'est vraiment, faut y aller au mental, faut aller chercher la seconde de moins ou les 10 mètres de plus ou voilà. Et puis les exercices de respiration, c'est. Alors moi, dans ce que j'enseigne et dans ce que je pratique, enfin, je fais au moins un exercice de respiration par séance. Souvent les mêmes, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des préférences et des choses où on est plus à l'aise, plus à l'aise. Après, je sais pas si, enfin, il faudrait sûrement que j'en développe un peu d'autres, mais il y a ça, il y a le côté renforcement. Étirement que j'ai oublié, pardon. Et là, je vais mettre ça plus ben, sur les après-séances. Il y a vraiment des grosses. Alors, je parle par rapport au trail, mais bitume, ça va être un peu ça aussi. Les grosses séances où on fait de la côte, ben, en fait, si tu montes, il y a un moment, il faut que tu descendes. Donc, tu as tout le bas du dos qui comprime, qui tasse, etc. Et au niveau du dos, ça me fait un bien énorme. Et puis, en fait, le mouvement de la course, eh ben, il va, entre guillemets, resserrer les hanches, il va faire qu'on a des ischios hyper raides. D'ailleurs, c'est dans ces postures-là en yoga que j'ai le plus de mal, c'est les arrières de cuisses là. Et du coup, de les mobiliser grâce au yoga, tu fais pas que de l'étirement parce que du coup, t'as le muscle antagoniste qui est contractée. Et du coup, de travailler sur les deux en même temps, je trouve ça hyper bénéfique.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de bénéfices. Alors, il y a même des comment s'appelle des gens qui vraiment mixent les deux, mais même à très haut niveau. On se
Oui.
rend compte hein, maintenant qu'il y a des coureurs de très haut niveau qui pratiquent les deux. Hein.
Oui, de plus en plus.
Alors, c'était une discussion que j'avais avec ma nièce ce week-end parce que ma nièce elle fait du cheval, tu sais, et quelqu'un lui a dit dans le cheval, non, mais si tu fais du cheval et du yoga, il y a un truc qui va pas parce que tu peux pas être à la fois souple et je sais pas quoi. Ça te, il y a des trucs qui vont pas. Bon. Moi, je connais pas assez le cheval, mais en tout cas, sur la course à pied, on peut dire que les deux ne sont pas incompatibles.
C'est drôle parce que j'ai une coéquipe, enfin je veux dire coéquipière parce que bon, on s'est entraîné dans le. C'est une asso, mais bon, on s'entraîne quand même ensemble, qui fait et du trail et de l'équitation. Et depuis le confinement, du coup, elle a suivi mes cours et elle fait du coup du yoga en plus maintenant. Et elle me dit, mais c'est bénéfique pour tout parce qu'en cheval, effectivement, tu as aussi les hanches un peu bloquées, tu as aussi le dos qui prend beaucoup d'impact. Et elle me dit, mais non, ça me fait vraiment du bien.
Oui, comme quoi il y a
C'est
des
un
idées
autre thème de
reçues.
podcast, hein, mais.
Ouais, mais il y a des idées reçues, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des idées reçues, mais souvent de gens d'ailleurs qui n'ont pas vraiment trop essayé ou alors qu'on en vu. Peut-être une pratique, parce que ce qui est dur quand même, c'est que dans le yoga, là, t'as dit plein de types de yoga différents. Enfin, t'en as dit deux
Oui.
ou trois déjà, non? T'en as cité. Je sais pas combien on a, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui nous sort une nouvelle sorte, un autre
C'est
truc.
ça.
Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, il y en a qui m'endorment, hein, soyons honnêtes. Je veux pas faire injure à ceux qui écoutent ce podcast et qui parce que j'ai des profs de yoga dans mon entourage, il y en a un qui m'endort. Tu sais, c'est le comment il s'appelle? Je sais plus. Celui-là qui est très méditatif, tu sais et tout.
Yin yoga?
Ouais, un truc dans le genre là. Ma femme elle adore ça, moi ça m'endort. Est-ce que tu recommandes un yoga plus particulier qu'un autre?
Le Hatha Yoga, ça va être la base de tous les yogas. C'est un yoga qu'on appelle postural. Et effectivement, ça va apprendre à bien rentrer dans les, enfin, bien rentrer dans les postures et bien les pratiquer. Après, c'est pas ce que moi j'aime. J'aime quelque chose de plus dynamique. Donc, ce que je conseille pour débuter, ce serait du vinyasa, mais pas en. Qui est quelque chose qui va être assimilé plus à quelque chose de flow. On appelle ça du flow aussi, du flottant, où c'est des postures plus enchaînées, peut-être moins maintenues, plus ludiques. Oui, on peut se permettre. Alors, certains puristes me diront non, mais je trouve qu'on peut se permettre un peu plus de fantaisie et de variation. Mais je conseille de commencer avec quelqu'un en direct pour se faire corriger et adapter, pour pas se faire mal, parce qu'on peut aussi se faire mal en yoga. Je dis pas que le hatha, il faut commencer sans personne pour se corriger, c'est pas du tout le cas. Mais vraiment ce que j'en pense. Et moi, ce pourquoi je suis formée et ce que j'aime, c'est le yoga Ashtanga, qui est quelque chose de très strict où c'est toujours les mêmes postures que tu enchaînes. C'est toujours cinq respirations que tu tiens par posture. Et du coup, c'est vraiment fait pour monter en progression dans l'échauffement du corps et dans la difficulté des postures au fur et à mesure.
D'accord.
Je l'enseigne pas à tout le monde, mais voilà.
Ouais, et je dis en plus parce que là, tu vois, je suis sur ton compte Instagram, je vois une 9 postures de yoga, une publication que tu avais faite justement pour après la séance de course à pied. Donc je dis hein, parce qu'on en trouve, je mettrai bien sûr tous les liens et notes d'épisode à la fin, je te demanderai de rappeler.
Merci.
Puis moi, il y a un truc. Alors là, enfin, au milieu là, ta photo, tu nous fais un truc, un équilibre avec ton ventre de femme enceinte, les pieds en l'air, etc., en plein milieu d'un champ de blé ou de je sais pas quoi. C'est toi cette photo-là?
Ouais, c'est moi.
Oh là là. Bon, moi j'arrive déjà pas normalement, tu vois, avec mon physique à moi. Là, je me dis, tiens, celle-là, photo, le jour où j'arrive à la faire. Bon, mis à part le ventre, ça c'était mon ventre quand j'étais obèse, tu vois, à peu près. le jour où j'arrive à faire cette photo-là, je me dis, waouh, j'aurais réussi à faire un truc qui me plairait, tu vois. Mais je la trouve vachement graphique cette photo. Et je voulais te dire en fait, j'adore cette photo. Vraiment, je la trouve super originale, les couleurs, etc. Et puis vraiment
Merci.
inattendue. Donc je mettrai un lien. Maintenant, tu vois, ce vent de femme enceinte nous amène au sujet pour lequel je t'ai invité. Parce que c'est vrai que tu marques dans ta description, tu dis yoga pour maman reneuse, et vraiment, c'est ta spécialisation, on va dire, d'accompagner des femmes à quoi? À reprendre la course à pied après l'accouchement?
C'est exactement ça. J'aide les jeunes mamans. Quand je dis jeunes, on s'en fiche de leur âge. C'est juste jeune en termes de ça fait peu de temps qu'on a accouché. En général, on dit que les 6 semaines qui suivent l'accouchement, il faut rien faire. Alors, je mets des gros guillemets sur le rien. Il faut faire très attention à la manière dont on se tient pour pas pousser sur les abdominaux, pour pas pousser sur le périnée. On peut déjà faire beaucoup d'exercices de respiration, donc des exercices posturaux. Je suis pas formée prénatale et postnatale. Donc, voilà. Ça, c'est les 6 premières semaines après l'accouchement. Après, en général, il y a 6 semaines où c'est rééducation du périnée, rééducation des abdominaux par kiné et ou sage-femme. J'interviens pas encore là. Par contre, une fois que la maman elle a le feu vert de son professionnel de santé, là, je suis là. Et je suis là parce que c'est vraiment le moment où, quand j'ai essayé de reprendre la course à pied après mon fils il y a 3 ans, mais j'en ai CHIER. C'était.
Non, mais dis-le, dis-le, dis-le.
J'en ai chié.
Ben voilà, il faut le dire.
Mais je me rappelle de ce premier jour où j'ai mis les baskets et je me dis, allez, j'y vais, quoi. Mais en fait, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien dans le corps, c'est vide. Les cuisses, il n'y a plus rien, le ventre, il bouge dans tous les sens, on n'est pas aligné, ça part. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais pas encore prof de yoga. Je pense que je connaissais quand même déjà pas mal mon corps. J'ai quand même pas mal de potes qui sont préparateurs physiques, qui m'avaient fait un petit programme bien comme il fallait. Mais en fait, le corps, il n'est pas prêt à reprendre la course même après 12 semaines. Alors, il y en a qui reprennent en 4 semaines et c'est super. Et il y a plein d'athlètes de haut niveau qui reprennent bien plus vite que ça. Et il y a une nana là en Angleterre qui fait des ultras, qui a fait l'UTMB. Son petit, il avait 3 mois. Et c'est incroyable. Et voilà, il y a des corps qui peuvent. On ne va pas se cacher que la majorité des corps ne peuvent pas. Hein, voilà, sur mon Insta, je parle beaucoup de Wonder Mama. C'est pas Wonder Mama au sens de on est toutes capables de faire ça. C'est juste la vie de maman du quotidien. C'est un peu Wonder quand même. Donc voilà. Et j'en ai tellement sué, tellement chié. C'était tellement dur et physiquement et mentalement de reprendre que je me suis dit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas et je peux pas, maintenant que j'ai réussi, maintenant que je suis formée pour ça, je peux pas ne rien faire. Pour mes copines et pour les autres, en fait, pour qu'on puisse reprendre dans de bonnes conditions. Donc, le but de ce que je propose, c'est vraiment de retrouver, donc, grâce au yoga, un renforcement qui va être assez complet et assez profond du corps dans le but de reprendre la course à pied.
Mais c'est un truc que moi, j'ai vécu à la maison avec ma femme. Et je dis, ma femme, notre fille a 3 ans. Ouais. Et ma femme, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas pu courir vraiment. Parce que la transformation du corps, elle est tellement importante que, en fait, même à un moment donné, la sage-femme ne savait pas, la kiné ne savait pas, les médecins ne savaient pas, les radios n'ont rien donné sur ce qui s'était passé à ce moment-là dans le corps pour que finalement, elle ait une douleur qui revenait tout le temps. En fait, c'est simple, elle courait 10 minutes, elle avait mal. Toujours okay. Cette espèce de cadre. Et c'était à peu près ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Nous, en tant qu'hommes, on a du mal à l'imaginer. Moi, je le vois avec ma femme. Et elle pèse parce qu'elle se dit, mais tu te rends pas compte à quel point ça me prive, etc. Et à force de discuter avec des femmes, et puis ma précédente invitée me disait que c'était sa grosse hantise aussi. Elle est enceinte, ouais. Elle se dit, mais comment je vais faire pour reprendre? J'en ai besoin. Pour l'instant, je fais du vélo. Comment je vais faire, etc. Je me demande comment en fait ça se fait qu'il n'y ait pas plus de gens qui en aient parlé, qui en parlent que ça en fait.
Alors mon côté féministe va dire que on s'en fout puisque de toute façon c'est des femmes donc pas un sujet important donc on n'en parle pas. Voilà.
Ouais.
Que les médecins, c'est majoritairement, alors pas tous, hein, mais c'est majoritairement des hommes. Là je suis entre guillemets en petite bataille avec ma maternité où en fait tout le personnel, tous les gens qui s'occupent de toi, mais quand tu veux discuter avec quelqu'un, il faut discuter avec un homme. Qui te comprend pas de la même manière qu'une femme, en fait. Et alors, c'est des grosses difficultés pour moi là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi? Ça fait aussi partie de mon combat, c'est qu'en fait, l'accompagnement pendant la grossesse, alors c'est génial, on est suivi tous les mois, on a des prises de sang tous les mois, on a des checks très intrusifs tous les mois chez la gynéco, etc. Enfin, notre corps ne nous appartient plus, qu'on se le dise. Et puis en fait, une fois que c'est fait, donc déjà d'une, psychologiquement, on n'est quand même pas en méga forme, il y a la chute d'hormones, blablabla. Et puis en fait, on vous dit, vous rentrez chez vous, vous avez une ordonnance pour, quand on a la chance, 10 séances de périnée, de rééducation du périnée, 10 séances de rééducation des abdos. Moi, les abdos, on n'en avait pas parlé, je ne savais même pas que ça existait. Donc bref, voilà. Heureusement que je faisais du yoga pour me les refaire tout seul, même s'ils étaient pas trop abîmés. Mais en gros, bah, il y a deux jours où la sage-femme, elle peut passer un peu chez nous pour savoir comment ça va. Et derrière, on se débrouille, en fait. On nous dit pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On nous dit pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. On nous dit pas que, bah, en fait, après l'accouchement, on a juste l'impression d'avoir un 36 tonnes qui nous est passé sur le corps, quoi. C'est compliqué. Enfin, alors pour certaines plus que d'autres. Déjà, moi, je pense que ça s'est bien passé et j'ai eu, voilà, de la difficulté à m'en remettre. Mais puis il faut aussi se dire que bah, pendant 9 mois, le corps il a été occupé à fabriquer quelque chose. Toutes les protéines qu'on a ingérées, elles n'ont pas été dans nos muscles. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une telle carence après. C'est que bah, pendant 9 mois, les protéines, elles ont été à fabriquer un être humain, à faire grandir l'utérus de 40 fois, à allonger les grands droits de 15 fois. Enfin, c'est les protéines, c'était pas pour nous, hein. C'était enfin
Oui.
pas pour nos muscles de cuisse. Et on a beau être en forme jusqu'à la veille de l'accouchement, il y en a qui vont courir jusqu'à la veille de l'accouchement. Enfin moi, le premier, j'allais nager 2 fois par semaine, je me faisais 3 séances de Bikram par semaine, j'étais au taquet. Et j'ai fait 2 mois, mais vraiment 8 semaines où j'ai rien pu faire après. Bon, d'autres, ça dure plus longtemps, d'autres moins. Hein, mais parce que bah, le corps a besoin de se consolider, de récupérer. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Donc, ou peu, ça vient. Mais pas assez à mon goût. Donc.
Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. J'ai aussi prévu un autre épisode avec les mamans sportives pour savoir comment elles s'organisent, parce que là aussi il y a un truc aussi
Ouais.
sur l'organisation, parce que et en fait pour faire la parité, j'ai prévu un épisode avec les papas runners et un autre épisode avec les mamans runneuses, parce que on a
Génial.
chacun des visions totalement différentes des choses. Ça fait un peu de temps que je laisse traîner les trucs, mais il faut vraiment que je m'en occupe, parce que c'est vrai que moi en tant qu'homme je me rends pas compte des changements dans le corps. Je me dis juste bon, le ventre il a tellement grossi que je vois pas comment il peut rester des abdos, mais je me dis qu'en fait il y a plein d'autres changements que je peux pas comprendre
Ouais.
en fait.
Oui, et en même temps, on n'en a pas toujours conscience nous-mêmes. Tout le monde m'avait dit, oui, tu verras, il faut 9 mois pour faire le bébé, 9 mois pour se remettre du bébé. Je dis, ah ouais, non, mais c'est bon pour moi, t'inquiète, ça va aller, je suis hyper sportive, c'est bon, j'ai la niaque. Ah, mais pas du tout, en fait, je suis comme tout le monde. Enfin, c'était 9 mois où tu te dis. Alors, mon enveloppe extérieure est revenue très vite. Effectivement, Alexandre, il est arrivé en mars, l'été sur la plage, nickel. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, tu te sens pas nickel du tout. Et que 9 mois après, tu commences à te dire, ah, ça commence à être mieux. Et en fait, c'est vraiment un an, certaines, ça peut durer plus de temps, où tu te dis, OK, les sensations commencent à. Elles peuvent pas être identiques. On est forcément différentes, on a fabriqué un être humain. Enfin, voilà, faut vraiment garder ça en tête aussi. Ça veut pas forcément dire qu'on sera moins bien. Parce que je pense que maintenant, finalement, je suis plus en forme et plus musclée et plus forte dans ma tête qu'avant mon premier enfant. Et je pense qu'on devient même meilleur physiquement et mentalement après un enfant. J'ai
D'accord.
l'impression que je m'égare, j'ai oublié
Non, non, non,
le
mais
point où.
c'est intéressant parce que finalement, c'est vrai que, tu vois, j'avais fait quelques recherches sur quelques articles aussi, et c'est là aussi où finalement il y a même des athlètes de très haut niveau qui disent même qu'elles se sont senties plus fortes après
Ouais.
la naissance de leur enfant. Alors là, tu vois, j'avais un article qui j'avais sous les yeux, qui était une sauteuse en hauteur, qui était championne olympique, hein, qui le disait, hein,
Oui.
que finalement, elle.
Mélina Robert-Michon, c'est ce qu'elle dit aussi.
D'accord. Donc c'est quand même, enfin, c'est vrai que. Il y a d'autres choses qui se jouent, quoi, parce qu'on parle beaucoup du corps, mais aussi psychologiquement, l'approche des choses qui est totalement différente. Je disais aussi, c'est qui? C'est Muriel Urtis qui était enceinte aux Jeux Olympiques,
Oui.
qui a loupé son en toute seule, mais qui finalement, elle a quand même la médaille en équipe. Donc c'est une période qui est très difficile à gérer, mais y compris pour des athlètes de très très haut niveau. Et c'est vrai que les mamans du quotidien, enfin les mamans, enfin non sportives mais sportives au quotidien, mais qui ont dont c'est pas le métier.
Ouais.
C'est encore autre chose parce que y a pas le suivi. Tu disais bon, finalement on a quelques séances, mais il y a pas plus que ça. J'ai t'as pas un kiné sous la main tous les jours pour venir t'aider non plus, quoi.
Ouais. Il y a ça. Et puis, il va y avoir la répartition des tâches et ce qui est méga à la mode, la fameuse charge mentale. Et on pourrait ouvrir un énorme débat, mais la discussion, tu vois, dans mon couple est assez ouverte là-dessus. Et donc, de mars à la rentrée de septembre qui a suivi pour mon premier fils, ben, tu te remets moins au sport, et puis en fait, ben, tu es en arrêt, en congé maternité, puis après, c'est les vacances, donc tu as du temps. Enfin, je mets des parents, des guillemets, mais tu as quand même du temps pour toi, pour faire des trucs. Et bien en fait, il y a la rentrée qui arrive, il y a ton job qui reprend, il y a ton enfant qui rentre à la crèche ou en garderie ou, à la enfin, ou chez une assistante maternelle, etc. Moi, mon mari, il fait aussi beaucoup de sport. Il fait du handball, donc c'est 2 à 3 entraînements par semaine, plus les matchs tous les week-ends. Donc si moi, je veux caler mes enfants, enfin, lui, c'est fixe, tu vois.
Ouais,
Enfin,
c'est
moi, je peux
fixe, il
aller
n'a pas le
courir ou je peux
choix.
aller faire du yoga, entre guillemets, un peu quand je veux. Il y a des studios sur Paris où j'ai la chance de ne pas avoir un créneau dans la semaine où je peux y aller quand je veux. T'as une chance ou pas une chance d'ailleurs, parce que du coup, comme il n'y a rien qui est fixe, bah, si tu ne te l'imposes pas toi-même, finalement, tu fais rien et tu te laisses vite déborder par le quotidien, parce que finalement, le sport, il vient quand tu as tout fait. Quand tu as fait ton job, quand tu as fait tes courses, quand tu as fait ton intérieur, quand tu t'es occupé de ton enfant, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas mettre le sport en bas de ma pyramide. Personnellement, je vais pas m'en sortir. Et si personnellement, je suis pas bien, ben, je vais pas être bien dans mon couple, je vais pas être bien avec mon gamin, ça va pas fonctionner. Donc, on a réinversé, on a réorganisé les priorités. Je lui ai dit, bah, toi, tu as 3 soirs dans la semaine, bah, moi, je veux 3 soirs dans la semaine. Voilà.
D'accord.
Alors, ça a coincé dans les organisations au bout d'un moment, parce que lui, il est auto-entrepreneur. Donc, il y a un moment, il faut qu'il bosse aussi quand ses clients sont dispo. Eh ben, on a pris une babysitter. Alors certains vont dire oui, ça coûte de l'argent. Ouais, mais moi ça me soigne ma santé mentale, lui aussi, et ça résout quand même bien des problèmes. Il y a des aides parce qu'on voilà, on n'utilise pas tout avec une nourrice, mais comme on a la crèche, on a cette chance-là. Donc la babysitter, c'était la vie, et ça c'était à partir du mois de décembre. Donc il a fallu 9 mois pour réussir à se réorganiser, pour que je puisse me dégager du temps, pour que l'on puisse répartir la charge mentale différemment, que ces 3 soirs-là, bah, c'est toi qui gères le petit, c'est toi qui vas le chercher, c'est toi qui gères la bouffe, ces 3 soirs-là, c'est moi, et puis voilà.
Bon, et le
Donc
septième soir,
l'inconvénient,
vous
c'est...
faites
Vas-y, dis-moi.
le septième soir, c'est vous dites ni de sport, on est enfin tous les deux, quoi.
C'était le cas avant que je devienne prof de yoga. Et c'est vrai que l'inconvénient, c'est que ben, on a fait ces choix-là et que pendant 1 an et demi, ben, on a un petit garçon qui n'a pas forcément vu ses parents ensemble le soir. Donc autant te dire que lui, le confinement, il kiffe parce qu'il a ses parents tout le temps pour lui tout seul ensemble à la maison. Mais c'était notre orga. Après, moi j'ai la chance en étant enseignante d'avoir des vacances un peu plus nombreuses que la majorité des gens en France. Avec un mari auto-entrepreneur, bah, ça lui permet de se dégager du temps aussi pour que, bah, on se retrouve à 3 quand même. Parce que sinon, tu tiens pas. Si tu fais que te croiser, il y a un moment, soit toi t'exploses, soit ton couple explose et c'est pas le but. Mais il faut avoir soi-même des exigences en se disant c'est important pour moi, donc je me donne les moyens d'eux. Alors il faut avoir quelqu'un en face qui comprenne aussi. Mais enfin, si on se met avec quelqu'un, c'est parce qu'il a ces qualités-là, je pense. Sinon, c'est que la personne n'a pas suffisamment de respect pour toi et qu'il faut peut-être te remettre des choses en question. Voilà. Mais enfin, en tout cas, il faut des discussions. Mais que ce soit ou le yoga ou la course ou n'importe quelle activité, je pense que pour être bien soi-même, il faut que ça soit au top de la pyramide, quoi.
Alors, ceci étant dit, maintenant, comment t'arrives à gérer la partie, et après on va venir sur la méthode, mais cette partie finalement de dire maintenant je vais aider les femmes, les mamans qui veulent reprendre comme ça la course et tout. Comment t'as réfléchi aux choses en disant faut que je leur fasse un programme, faut que je leur montre des exemples, faut que je leur que je les accompagne sur des positions particulières, sur des co comment c'est quoi ta vision de comment est-ce qu'on va reprendre justement après bah, ces fameuses périodes qui sont imposés, j'ai envie de dire, par la remusculation, etc., etc., et voilà.
Alors au début, les copines que j'ai entre guillemets coachées pour se remettre à la course, sans prétention, hein, je l'ai fait parce que ben elles savaient que moi j'avais un petit peu de connaissances du coup du corps et de cette reprise et que ça avait fonctionné pour moi. Et du coup, elles m'ont posé des questions et je leur ai dit, bah, si tu veux, viens, on va courir ensemble. Ou si tu, enfin, avant, viens, on fait des cours de yoga ensemble. Ou je te dis ça, tu peux commencer par ça, après, tu peux faire ça. Mais c'était juste des conseils comme ça à l'oral avec quelques copines. Et puis, au fur et à mesure, ben, d'une, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnait pour elle aussi. Et en fait, ben, pour mettre tout ça en place, le fameux programme qui devrait sortir une fois que je serai remise, moi, pour que je puisse m'occuper des autres aussi, en fait, je me suis fait coacher
D'accord.
par une spécialiste du yoga digital. Qui avait commencé à proposer du yoga digital avant même le confinement, qui s'appelle Cécile Fuselier. On la retrouve sur les réseaux sur YogiBiz Coaching ou YogiBiz Podcast ou voilà. Et du coup, grâce à elle, en fait, j'ai réussi à me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je fais du yoga, ok. Je donne des cours de yoga, ok. Mais c'est vraiment pour ces femmes-là que je veux faire du yoga. Et ben, en fait, je me suis posée de longues heures devant mon ordinateur en disant ok, donc moi j'ai fait ça, il y a ça qui existe, ça fonctionne, telle posture, telle partie du corps, si je muscle ça, ça veut dire qu'il faut que je commence par ça avant, si je fais ça avant, ça veut dire que je peux faire ça après. Voilà, j'ai fait un énorme arbre qui partait dans tous les sens là, et j'ai réussi, je crois, à poser quelque chose que moi je trouve pas trop mal. J'espère que mes futurs coachés enfin, me diront ce qu'elles en pensent bientôt, donc voilà.
Oui, et puis que tu vas pouvoir tester toi finalement dans quelques semaines.
C'est exactement ça. C'est que bah, je vais faire un deuxième test en live sur moi, je pense, à partir de soit fin d'été, soit septembre. Et puis, je pense que je ferai des lives d'ailleurs, du coup, s'il y en a certaines qui veulent me suivre dès ce moment-là. Et puis, bah, dès que moi, je suis entre guillemets remise. Je réouvre les. J'aurais voulu réouvrir en même temps que ma reprise à moi, pour vraiment le faire en même temps que les mamans. Là, je dévoile un peu les coulisses, attention, hein. Ça veut dire qu'en fait, mon programme, il est sur 3 mois. Ce que je pense faire, c'est sur 3 mois. Ça veut dire que si je fais septembre, donc octobre, novembre, décembre, ça veut dire qu'on reprend la course à pied en décembre, janvier. Autant te dire qu'une maman. Bon, si c'est déjà une reneuse, elle s'en fiche du temps qu'il va faire dehors, elle va y aller. Mais peut-être que mon public va pas être une grosse vénère de la course à pied comme certaines peuvent l'être. Et je me dis que c'est pas forcément propice. Donc je vais décaler un peu le programme pour commencer le renforcement décembre, janvier, février, pour reprendre à courir en mars, quand les jours ils allongent un petit peu, quand il fait un peu plus beau, quand c'est plus simple de se motiver, quand voilà. Donc, puis moi, ça me laissera un peu de temps aussi pour vraiment bien, bien, bien me remettre et physiquement et dans mon orga perso, du coup, avec les deux enfants, pour être sûre d'être dispo pour vraiment m'occuper des mamans qui me suivront dans cette aventure.
Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la période où on reprend la course, l'automne, etc., et puis l'hiver, quand il fait nuit, tôt, tard, enfin tout le temps, quoi,
Ouais, c'est ça.
c'est pas le moment où t'as le plus envie, et je pense que c'est le moment aussi où finalement ça te fournit une excuse supplémentaire. Pour dire,
Bien sûr.
oui, mais attends, j'ai mon bébé à la maison, faut que je m'occupe de ça, et si j'allais faire ça, si j'allais faire ça, aujourd'hui il pleut, il fait pas beau et tout. Et finalement, tu repousses. Alors que là, quand il se met. Alors, cette année, bon.
Ouais.
Je le redis, hein, 17 mai, j'ai sorti le short par. en me disant, on est le 17 mai quand même aujourd'hui. Ça caille encore. Mais c'est vrai que j'avais prévu des épisodes, on avait fait des épisodes il y a quelques temps sur. En disant, maintenant, ça y est, il fait jour, on a envie de courir plus, etc. C'est vraiment le printemps où, d'un coup. On se dit, tiens, j'ai envie d'y retourner. Donc, c'est pas un mauvais calcul. Et puis, en plus, je me dis que les mamans, elles ont besoin de respirer aussi. Ça apporte une respiration, ces temps-là que tu leur offres.
Ouais, c'est le but. C'est le but, c'est du temps pour elles. Et comme je le disais, moi, je m'en suis rendu compte pour moi, si elles prennent pas du temps pour elles, ben, elles sont moins bien. J'espère qu'elles s'en rendront compte et que, en fait, si tu te mets pas toi, en fait, c'est quelque chose qui est non négociable. C'est ta priorité, toi. Et enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein. On me l'avait dit et ma sage-femme me l'avait dit et mes autres profs de yoga ou autres. Même d'ailleurs, notre coach par rapport au tral nous l'a dit. Si toi, t'es pas bien derrière, à côté, ben, c'est compliqué. Enfin, si je suis pas bien, je vais être désagréable avec les autres, que ce soit les collègues, que ce soit, l'entourage. Et dans l'entourage, qui est-ce qui prend le plus cher? Bah, c'est les plus proches. Hein, donc, c'est ton mec ou ta nana, c'est tes parents, c'est tes enfants. Et en fait, c'est trop dommage d'abîmer une relation parce que le problème, il vient de toi, quoi. Donc, règle ton problème, prends tes baskets, sors ton tapis, vide-toi la tête, fais-toi du bien. Et là, tu seras bien avec les autres.
Alors, sans tout dévoiler, mais pour en dire un petit peu plus quand même, parce que là, on a des mamans qui disent, bon, alors, comment, par quoi, vraiment, tu vois, les grandes lignes, on va dire, pour commencer, ouais. C'est quoi, par quoi on peut reprendre facilement quand on veut, voilà, on se dit, bah tiens, voilà, ça y est, maintenant, ça fait, on va dire, 3 mois que mon bébé est né, j'ai envie de reprendre la course. Par quoi je peux commencer? Et est-ce qu'il y a des trucs auxquels je dois vraiment faire attention?
Ce qu'il faut faire le plus attention, c'est le périnée, les abdominaux. Ça, c'est la première chose auquel il faut faire attention. C'est aussi la suite, en fait, de la rééducation dont on bénéficie de plus ou moins bonne qualité, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, bah, ça va être déjà reprendre à marcher de plus en plus rapidement au fur et à mesure. Ça va être tous les sports qui sont sans impact. Alors, si je parle à des runneuses d'aller nager ou faire du vélo, elles ne sont pas toutes sensibles. Mais mine de rien, ben, c'est aussi une bonne manière de perdre quelques kilos de grossesse qu'on a gardés, enfin quelques à plus ou moins grande échelle. Mais je ne vais pas conseiller à une maman qui a pris beaucoup de poids pendant sa grossesse de reprendre par des sports d'impact, en fait. Que ça soit du crossfit, de la zumba, peu importe. En fait, c'est de l'impact ou de la course. Ça risque de faire plus de mal au corps qu'autre chose. Donc voilà. Et puis après, ça va être une fois que la sangle abdominale, elle est revenue en place. Là, on va pouvoir faire ce que je conseille, moi. Et après, voilà, hein, le dos. Parce que c'est vraiment deux muscles pour moi qui vont aller ensemble. Si on muscle trop les abdos, ben on va se voûter, on va se pencher vers l'avant. Le dos va permettre de se redresser. On va avoir une meilleure posture. Derrière, si on a la posture qui est bien ouverte, on va pouvoir travailler tout ce qui est souffle. Et si on travaille souffle, on va pouvoir travailler le cardio. Donc, on va pouvoir enchaîner avec les cuisses. Et voilà, il y a tout un circuit comme ça que je préconise. Alors, je vais me faire un peu de pub, mais du coup, sur mon compte Insta, il y a déjà en fait un mini programme de toutes ces étapes-là, avec des idées d'exercices qu'on peut faire dès le début. C'est à télécharger gratuitement. Et c'est vraiment cet ordre-là que je respecte pour respecter vraiment le corps au maximum et les étapes de remusculation.
Oui, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, mais je pense que le yoga n'y est pas pour rien dans l'histoire, se dire que finalement, on va remuscler le dos pour ouvrir la respiration, etc. C'est que, faut rappeler quand même que le souffle, c'est la grande base du yoga.
Ah bah oui, et que sans respirer, on court pas.
Donc, ça me semble logique, mais c'est vrai qu'après, il y a plein de gens qui... Puis quand tu regardes les gens courir dans la rue, il y en a plein qui c'est pour ça que j'ai invité aussi des spécialistes du yoga, parce qu'il y en a plein qui sont voûtés, qui sont pliés, etc., qui bénéficieraient d'avoir ça. Et moi, je parle en connaissance de cause, parce que moi, je suis voûté, mon diaphragme, il travaille pas assez bien. Tu vois, enfin voilà, ouais, c'est un espèce de bordel, je me demande comment j'ai réussi à courir. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le truc. À chaque fois que je vais voir mon osso, on me dit, ouais, ce diaphragme, hein, et tout, faut faire des exercices, faut l'ouvrir, tu vois. Est-ce que tu dis en ouverture? Finalement, et tu vois, je me dis, il y a même des hommes, en fait, ça se trouve, ils vont piquer le programme de leur femme, tu vois, sur ces exercices-là, en fait.
Ah, mais à fond, grand bien leur face. Si c'est bon pour une maman runneuse, c'est forcément bon pour d'autres personnes. Je veux dire, ça, c'est pas du tout, c'est pas restrictif. Un programme, entre guillemets, lambda pour... j'ai regardé hein, des programmes de reprise de la course après blessure. Pas spécifique femme, pas spécifique homme, et encore moins spécifique jeune maman, ben, en fait, c'est pas adapté.
Ouais.
Il fallait une étape supplémentaire. Et c'est aussi ce que je dis dans mes présentations sur ce programme ou sur cette roadmap que je propose, c'est que eh ben, à l'époque, j'ai rien trouvé en fait, qui corresponde. Donc, j'ai fait des trucs à droite, à gauche, mais vraiment... Si tu reprends un programme spécifique longue blessure ou arrêt très longtemps du running, ben, finalement, il manque le côté vraiment interne du corps où c'est peut-être juste une blessure du genou. Non, c'est quelque chose, c'est pas rien. Mais que ça soit une épaule, un genou, le dos, peu importe, c'est moins global que l'ensemble de ce qui peut se passer dans le corps après une maternité, en fait.
Oui.
Donc, pour moi, il manquait des choses. À l'époque, j'ai rien trouvé qui englobe tout ça. Et c'est vraiment ce que je veux donner aux nouvelles mamans ou futures mamans, ou voilà quoi.
Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que moi, bon, mon genou, il est opéré. Finalement, il y a que mon genou, bon, voilà, ma jambe a diminué, je manque de puissance, je manque de force,
Ouais.
etc. Mais si j'avais été un peu plus courageux, je pouvais encore faire des abdos, je pouvais encore faire plein de trucs. Alors, bah, les premiers jours, les pompes, non, parce qu'il fallait pas trop travailler le genou, mais rapidement, je pouvais reprendre certains trucs, je pouvais travailler les bras, etc. Alors que sur la femme enceinte, c'est vrai que tout le corps, il est impacté, en fait.
Complètement. Alors, il y a des jeunes mamans qui me disent, non mais t'inquiète, mes bras, ils fonctionnent à force de porter mon bébé. Oui, à fond. Et le meilleur renfort qu'on puisse faire avant de commencer ce programme ou autre chose, un autre sport, ça va être effectivement de bien se tenir. Et quand je dis bien se tenir, c'est vraiment redresser le buste, allonger le ventre pour justement bien porter son bébé et pas se faire encore plus mal. Parce que là, ça peut être enfin, dramatique. Je suis pas vraiment encore, je suis pas spécialiste postnatal, mais le souci des abdominaux dont on parlait, comme tu dis, je vois pas comment les abdominaux ils peuvent être encore là après le ventre qui devient gigantesque. Tu vois, je touche mon ventre en disant ça. Mais le souci, c'est que, et encore plus avec des grossesses multiples, que ce soit des jumeaux ou enfin, des jumeaux, jumelles, triplées, etc., c'est que bah, les grands droits ils vont s'écarter et on peut avoir ce qui s'appelle un diastase ou diastasis. C'est cette ligne blanche là qui va complètement s'écarter. Et si on ne fait pas des exercices adaptés dès le début, alors je ne vais pas dire l'heure qui suit la grossesse, hein, enfin l'accouchement, mais vraiment dès le début, ben certaines mamans vont jamais s'en remettre. Et derrière, il n'y a plus que l'opération, entre guillemets, pour remettre les abdominaux correctement, alors qu'il existe des choses pour resserrer les abdominaux, pour retravailler tout ça. Et sauf que bah, dans un programme de reprise du sport classique, on parle pas de tout ça.
Et
Donc,
oui, non
il
mais
fallait un truc spécial maman, voilà.
je te confirme parce que déjà t'as des programmes où ils te parlent juste d'alternance marche-course, hein,
Ouais.
donc t'as pas toute la partie à côté, etc. Les parties où t'as un peu de renforcement musculaire, etc. C'est pas si commun que ça, hein, non plus, hein, même dans les programmes de reprise, parce que bon, a priori, mais même moi je m'en rendais pas compte, tu vois, la fonte musculaire, à quel point ça peut aller vite, ce qui est énorme.
C'est déprimant.
Je le rappelle quand même, c'est une anecdote que je donne sur quand je vais voir ma kiné, elle me regarde ma jambe, elle me dit waouh, elle me dit là la jambe elle a fondu à une
Ouais.
vitesse incroyable et j'ai eu un arrêt de. Pourtant j'ai même pas été, j'ai eu mes BQ pendant 6 jours, donc pas longtemps et j'ai perdu 3 cm sur la cuisse, entre 3 et 4 cm sur la cuisse et sur le mollet.
De
Donc
tour de cuisse?
ouais, de tour de cuisse.
OK.
Donc quand elle me pose sur la table, elle me dit waouh, il manque un bout de truc, il manque de la viande. Et n'empêche que c'est ce qui me permet d'être plus souple, hein, parce que ça me fait des ischios qui sont moins gros, donc ça plie plus et tout.
Ouais.
Elle se moque un peu de moi quand même comme ça. Mais je me dis, c'est vrai que l'arrêt, parce que quand on parle finalement, il y a toute une période, alors où chacune va gérer ça après, est-ce qu'on fait du sport pendant la grossesse, etc. C'est ce que tu disais. J'en ai parlé avec des mamans qui disaient, bah moi j'avais trop peur, qui tombe. J'ai trop peur de faire tel ou tel sport, ou alors ça me fait mal, ou alors je suis pas à l'aise. Ma précédente invitée, tu vois, c'est pour ça qu'elle fait du vélo. Donc déjà,
Ouais.
il y a des fois il y a un arrêt d'activité, puis au bout d'un moment, il y a un arrêt d'activité qui est forcé parce que tout le monde s'appelle pas Paula Radcliffe à courir un marathon en étant enceinte, hein, ça, soyons honnêtes. Donc après, il y a la période où t'es forcément arrêté parce que tu peux pas faire de sport. Puis après, il y a la période de reprise où tu penses à plein de choses, mais où t'as un peu de ça. Donc finalement, ça fait une sacrée période où ton corps il fonctionne pas normalement.
Ben, presque 2 ans, quoi.
Ouais.
Entre 18 et 24 mois. Entre la conception et entre le moment où tu retrouves des sensations qui te sont bonnes, à toi propre. Enfin, voilà. C'est pas très français ce que je dis là, mais oui, il faut compter. Enfin, pour une personne, j'ai envie de dire lambda, il n'y a rien de péjoratif parce que pour le coup, je m'inclus complètement là-dedans. Et c'est dur psychologiquement parce que c'est long, parce qu'on n'en voit jamais le bout, parce que c'est un tunnel, parce que ton médecin, il te dit vas-y, go, enfin ton professionnel de santé, peu importe qui, te dit vas-y, go, t'as le feu vert. Et en fait, le feu, il est orange, quoi. Enfin, c'est ok, oui, d'accord, ton périnée, il est remis, mais en fait, malgré tout ça, tu te rends compte que si t'es fatigué et que tu vas courir, même si ton périnée, il est remis, ben, en fait, t'as quand même cette lourdeur-là entre les jambes à la fin de ta séance et tu dis, ah bah, j'aurais peut-être pas dû faire les 5 derniers kilomètres, alors j'aurais peut-être pas dû faire 2 séances de côte en plus. Et du coup, il faut que tu te re-reposes. Alors, Les exos du périnée, c'est pas que pendant 6 semaines tu te rends compte qu'en fait maintenant c'est pour le reste de ta vie et que ça fait partie d'un quotidien et d'une routine, ou alors au moins sur les moments où tu te sens un peu plus faible, absolument les reprendre. Alors l'avantage c'est que c'est un muscle, c'est que vraiment ça peut se reprendre, c'est pas parce que c'est fichu une fois que voilà, et souvent d'une grossesse à l'autre, ça peut même revenir encore meilleur qu'avant. Donc c'est plutôt bon signe, je vous dis pas refaites un enfant pour retrouver, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, c'est long. Donc, d'où le travail du mental grâce au yoga.
Et oui, puis j'allais te dire d'ailleurs sur le mental, c'est qu'il y a aussi la mémoire de la sportive que t'as été avant, et tu te trouves totalement, je veux dire freiné. Oui, parce que le simple fait d'avoir arrêté, en plus, déjà te met dans une position où tu n'es plus du tout ce que la sportive que t'étais avant.
Ouais. Alors il y a des moments où tu vis dans le fantasme de ce que t'étais, où t'as l'impression que tu le seras plus jamais. Et c'est possible, d'ailleurs, que certaines ne le seront plus jamais. D'autres ne le seront plus jamais parce qu'elles seront meilleures. D'autres parce que ben c'est compliqué de reprendre. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Et puis, y a quand même ce côté motivation. J'ai envie de... Quand j'ai eu Alexandre, j'avais envie de me dire « Ok, je vais revenir à la même chose. » Non, en fait, c'est... Alors, je dis ça avec du recul. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je dis mais si, t'inquiète, moi, je vais y arriver. Ben non, en fait. Faut juste dire que c'est différent. C'est pas mieux, c'est pas meilleur, c'est pas moins... Enfin, c'est pas pire, c'est différent. Ton corps est différent, tes attentes sont différentes, ta vie est différente. J'étais la première à dire, non, mais ma vie, elle va pas changer. Je vais continuer à sortir avec les potes, je vais continuer... Oui, je continue à le faire, mais pas de la même manière, en fait. Maintenant, on fait des goûters.
Et oui.
Mais voilà, et c'est pas pour autant que ça me plaît moins. C'est différent.
Puis tu sais, t'as le sketch de Florence Foresti sur ce neurone qui reste toujours accroché à ton bébé. Enfin, je sais pas si t'arrives quand tu vas faire du sport. Parce que le yoga, il y a des concentrations, il y a tout un tas de choses, etc. C'est arriver à se détacher, de dire, j'ai un moment où j'y pense plus. Je sais pas si... C'est difficile à dire quand même. Hein.
Alors, pour moi, ma meilleure méditation, c'est la course à pied.
Ouais.
J'ai quelques posts là-dessus aussi. C'est que, en fait, au début, je vais tout ranger dans ma tête sur les premières minutes, les premiers kilomètres. Et ça, je trouve ça génial. Quand tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, justement, quand tu n'arrives plus à t'organiser, que ce soit au boulot, à la maison, prends tes baskets et va courir. Et du coup, tu as tout qui va se ranger sans que tu t'en rendes compte dans ta tête. Et puis, il y a un moment, tu sais pas ce qui s'est passé, t'as pensé à rien, et puis il y a 3, 4, 5, 10 kilomètres, sûrement plus pour d'autres qui se sont passés, et tu sais pas à quoi t'as pensé. Et alors, c'est ce que j'appelle, moi, l'état de flow, c'est un état de méditation où tu sais par où t'es passé, mais tu sais pas comment t'as fait pour arriver de tel point à tel point, mais t'étais en espèce de vigilance non consciente. Ça ne veut pas dire que tu as arrêté de courir, ça ne veut pas dire que tu as arrêté de respirer, ça ne veut pas dire que tu as arrêté de penser, c'est juste qu'il y a eu un espace-temps qui t'appartient à toi. Et là, oui, moi, je décroche. Alors, je ne sais pas si c'est flatteur ou pas, mais oui, j'arrive complètement à décrocher.
Alors, de mes recherches que j'ai faites sur l'état sur le flow, il paraît que les gens qui sont heureux sont ceux qui ont justement ces moments-là. En fait.
Cool.
Tu vois. Faudrait que je retrouve les sources parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps. Je crois que c'est dans un livre sur l'ikigai, tu vois. Enfin, il y a des espèces de connexions qui se font. Puis tu sais, mon cerveau, il connaît des trucs à droite à gauche, donc je sais plus où je les connecte. Mais je crois que c'est dans un livre et qui disent justement que celui qui a mis les mots sur le flow et dont on n'arrivera jamais à le dire le nom parce que tu sais, il a un nom, Michi Gagai, je sais pas comment là, tu sais. Bref, t'as compris. Il y a des études qui ont été faites, justement, où il disait que ça fait partie aussi, quelque part, d'une bonne santé, d'arriver à décrocher, d'avoir ces moments-là. Et c'est vrai que pour des parents, c'est aussi extrêmement compliqué. Moi-même, en tant que papa, le nombre de séances sur la piste où je me dis, oh, j'espère qu'à la maison ça se passe bien, qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce qu'aujourd'hui ça va, est-ce qu'elle va pas être trop, j'ai envie de dire, difficile ou compliquée à gérer, parce que la douche ça peut être compliqué, parce qu'elle avait pas envie de manger, parce qu'elle était fatiguée ou quoi que ce soit. Puis toi t'es sur ta piste et tu te dis, bon, il y a ma femme qui est à la maison.
Il y a l'autre qui galère,
Tu vois, donc ce truc-là, et c'est vrai que cette impression de pas décrocher, que Florence Foresti le décrit pour les mamans, mais Les papas aussi, hein, le vivre, hein, faut dire ce qui
Bien
est.
sûr.
C'est vrai que c'est pas facile d'arriver à s'en défaire, et si la course à pied peut aider, parce que c'est une forme de méditation, c'est vrai que c'est aussi un truc qui est vraiment bénéfique, quoi.
Il y a des jours où je sais que je vais claquer la porte avec mes baskets et ouais, je vais l'avoir. Et puis il y a des jours où ben non, tu sais que pendant tout ton entraînement, ta tête elle a tourné sur ce qu'il y avait à faire, sur comment il va, sur ceci, sur cela. Et ben c'est peut-être justement parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas été courir et que du coup il manque un truc ou faire du yoga ou l'équilibre est pas là. Mais quand l'équilibre est là, je sais qu'il y a un moment dans la séance où voilà, quick, je vais déconnecter ou il y a des moments où quand je cours, je dis que je suis bête parce que tu sais plus pourquoi tu cours mais tu cours en fait. Tu es dans la douleur sans être dans la douleur, t'avances mais tu sais plus pourquoi, tu as l'impression que tes jambes elles tournent toutes seules. Et ben tout ça c'est les moments où tu décroches en fait.
C'est très intéressant, hein, ces discussions-là, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses, et puis on se rend pas compte, et puis moi dans mon quotidien entrepreneur aussi, la place de l'enfant quand il arrive, parce que ce matin j'enregistrais un épisode de podcast pour mon autre podcast, et l'invité me disait, il me disait, faire d'être papa, ma fille qui a 1 an, je me suis pas rendu compte que d'un coup je passais de 8 heures de travail à 1h30 de travail dans mes journées, avec le confinement, avec des trucs, etc., que ça me changeait tout, que ça me chamboulait. Et c'est vrai, on s'en rend pas compte, parce qu'en plus des fois on a des modèles où l'enfant il est un petit peu, pas exclu, mais presque en fait, t'as l'impression qu'il y a des mamans ou des papas qui gèrent ça, comme si l'enfant n'existait presque pas, alors qu'en fait il est bien là. Et que pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais faire aussi ce type d'épisode et avoir des témoignages comme ça, parce que je pense que ça va en rassurer beaucoup, en fait.
Mais j'espère, j'espère. Et puis enfin, pas la victoire, mais la motivation quand tu es à la fin de certains entraînements, plus l'été ou aux courses, c'est de savoir que d'une, il y a des ravitaux ou des points de passage où bah, ton gamin, que ce soit avec tes parents ou tes potes ou ton partenaire, va être là. Et juste de le voir, mais tu te prends un shoot de. Alors, pas d'ocytocine cette fois-ci, mais d'adrénaline de dingue. Et c'est top. Et de savoir que il ou elle, ton enfant, va être là sur la ligne d'arrivée. Et que bah, en fait, tu cours pour toi, mais il y a des moments où bah, tu déconnectes pas parce que tu te dis que tu cours pour lui ou pour elle aussi. Que si toi, ça te rend plus fort, tu vas lui donner des valeurs que en quoi tu. En toi, enfin, des valeurs en quelles toi, tu crois. Que tu as envie de lui transmettre aussi, parce que finalement, si ton enfant, il te voit sur ton tapis régulièrement, s'il te voit mettre les baskets, courir régulièrement, ou prendre ton ballon, ou te mettre à danser, ou peu importe, bah, tout ça, il le prend, en fait, il le vit, il le respire avec toi, et enfin, moi, ça me tient à cœur de transmettre ça aussi autour de moi.
Et tu vois, ça me donne un truc qui me fait penser. Je sais pas si ton fils, il fait du yoga.
Tout le temps, alors au début, il voulait tout le temps être sur le tapis avec moi, donc en fait je pouvais rien faire. Donc du coup je pratiquais quand il était plus là, mais ça me laisse moins de temps pour pratiquer et en même temps je me dis que ben non, enfin j'ai envie de lui transmettre ça aussi. Donc ben, du coup je lui mets un tapis à côté de moi avec des jeux, les machins, les trucs, ses petites voitures, ses poupées, c'est tout. Et puis il y a eu un moment où il voulait plus du tout en entendre parler. Alors ça coïncide aussi avec le début de la grossesse où c'était pas maman, où c'était voilà, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé où j'étais un peu en rejet. Et là, au contraire, ça revient à fond. Je pratique le matin dès qu'il se réveille. On a de la chance de ne pas avoir de réveil à mettre en ce moment. Donc, il vient dans le lit, on se lève et on sort le tapis. Lui, il sort ses trucs. Il fait sa vie de son côté. Après, il vient sur mon tapis, il fait un câlin, il me grimpe dessus. Il se met entre mes jambes. Enfin, voilà, il fait deux, trois positions avec moi. Il repart jouer, il revient. Et ouais. Alors, ce n'est pas des moments où je déconnecte. Hein, c'est juste des moments où j'entretiens mon corps. Mais si je veux vraiment déconnecter sur une séance de yoga, bah, oui, il faut que je sois toute seule, plutôt dans une chambre où il n'y a pas trop de passage autour, c'est quand même plus propice. Mais bah, en ce moment, j'aime faire, ouais, pratiquer avec lui, ça me plaît bien.
Oui, moi ma fille, quand je sors le tapis, elle se met à côté. Et puis des fois
J'adore.
elle demande, elle dit oh, faire du yoga, faire alors le. Ce qui est drôle, c'est que la position du chien tête en bas, c'est la première
Ils
position qu'elle
adorent,
s'est
les
mise à
enfants.
faire. Et elle le fait super bien. Et elle le fait, mais super naturellement. Elle nous a vu faire. Alors on lui a trouvé des bouquins. Donc il y a plein de bouquins qui existent du yoga pour les enfants, etc. Il y en a même un, c'est Choupi. Elle adore Choupi qui fait du yoga.
Ouais.
Mais le chien tête en bas. c'est son truc comme ça, et puis elle a réussi à le dire super tôt, il y a des trucs, et maintenant elle est sur les équilibres, tu vois, ce, je sais plus qu'elle faisait l'autre jour la position, elle tient un équilibre, elle est super fière, et c'est vrai que je sais pas à quel point ça joue sur sa motricité, sur son équilibre, etc., mais le constat qui a été fait l'autre jour et par tout le monde, c'est qu'elle est loin d'être manche, et que je pense que ça l'aide aussi à avoir un peu la conscience de son corps, et que c'est pas mal finalement qu'elle nous voit faire et qu'elle ait envie de le faire.
Complètement. Et sa vision dans l'espace, je pense, ne sera que meilleure. Et un enfant qui voit ses parents bouger, bah, il va avoir envie de bouger aussi. Et c'est drôle parce que je me suis formée au yoga pour enfants également. Et en fait, quand tu regardes bien, bah, il n'y a pas de secret. Toutes les postures qu'on fait en yoga, qu'on nous apprend, qui sont hyper sérieuses, blablabla. Ce n'est pas ma manière d'envisager les choses, mais ça peut être le cas parfois. Et ben en fait, c'est que des positions que l'enfant il va prendre naturellement. Mmh. Se mettre à quatre pattes, se recroqueviller, bouger, s'asseoir les fesses sur les talons, comme tu disais, le chien tête en bas, où on est en V inversé, là, avec les têtes en, les fesses en l'air. L'enfant, il arrive très facilement à faire tout ça. Et quand tu observes en fait, l'enfant, le nouveau-né ou après un peu plus grand, mais c'est des positions que lui prend naturellement. Et en grandissant, on les oublie parce que il y a le regard des autres et on ose faire moins de choses dans notre corps. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on devient des êtres faire et enfin, des fers vivants et plus des êtres vivants. Mmh. Et enfin, c'est voilà, juste réapproprier son corps comme un enfant sans avoir le regard de l'autre. Je sais plus à partir de quel âge l'enfant il commence à être gêné du regard des autres ou de développer la timidité. Je sais que c'est après 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils ne l'ont pas encore. Mais du coup, c'est génial de se dire que bah, tu es juste là et tu t'autorises à bouger dans ton corps. Et c'est ce que le yoga m'apporte aussi.
Ouais, et moi, ce qui me fait sourire, c'est quand elle s'allonge sur ce tapis et qu'elle se met sur le dos et qu'elle respire et qu'elle fait des grandes respirations profondes et que tu la regardes faire et tout. Et en fait, sur la gestion des émotions aussi, sur des choses comme ça, c'est un truc sur lequel on fait travailler parce que ce que je disais ce matin aussi à ce fameux papa, je lui dis... Il me dit, moi, ma fille, elle a 1 an et tout. Elle me dit, c'est compliqué. Je dis, après, encore. Il y a d'autres choses qui vont se rajouter, etc. Et c'est là aussi où on se dit que finalement, ce mouvement, ce yoga, etc., tous ces trucs-là, ben finalement, pour les enfants, c'est aussi largement bénéfique parce que ça leur apporte plein de trucs. Et c'est vrai que cet exemple, pour les mamans qui peuvent faire aussi avec, eh ben, ça, c'est un chouette truc. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en discute ensemble.
C'est cool. Merci.
Pour finir sur cet épisode, bah, tu sais ce qu'on va faire. On va dire où est-ce qu'on peut te suivre, voir tes conseils, etc. Bien sûr, je remettrai tous les liens, mais on va le... c'est quoi? C'est mieux? C'est Instagram? C'est où?
Alors, mon réseau de prédilection, ça va être Instagram. Mmh. Je relaye toutes mes publications de Instagram sur Facebook. Et alors en ce moment, je suis un peu moins régulière entre l'organisation, les confinements, la fatigue. Mais j'ai une chaîne YouTube en fait où je poste des petites vidéos un peu quick wins de ce qu'on peut faire, 2-3 postures. Il y a certaines séances en entier. Il y a aussi du yoga pour enfants d'ailleurs. Mmh. Mais voilà, j'essaye de publier au moins une vidéo dans la semaine. Ce sera peut-être tous les 15 jours là bientôt avec tout ce qui va se passer. Mais voilà, pour pouvoir pratiquer déjà avec moi, savoir si ça va vous plaire ou pas. Et puis, bah, on peut aussi télécharger le programme de reprise. Il y a même un petit cadeau dedans, si on cherche bien. Il y a un deuxième bonus. Donc voilà. Mais sinon, on peut, enfin, écrivez-moi, posez-moi des questions. C'est avec grand plaisir. Je me rends compte qu'en fait, plus je fais ça et plus j'aime ça, et plus j'ai envie de transmettre, en fait. C'est...
Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à terme, après, c'est le but du jeu, c'est que ce soit des programmes à distance, des choses comme ça, que ce ne sera pas réservé qu'aux Parisiennes, j'ai envie de dire.
Ah, c'est pas du tout réservé aux Parisiennes, puisque ce sera en ligne.
Ouais, ce sera en ligne. Hein.
Donc, ce sera vraiment pour tout le monde. Je pense que sur les deux, au moins les deux premières éditions, ce sera que du live, que du coaching. Alors, ça peut être individuel ou de groupe. Je pense que je vais proposer les deux. Et puis après, une fois que le programme il sera bien établi, avec le retour des mamans, etc., je pense que je vais pouvoir vendre le package complet. Mmh. Les mamans qui me disent « Non, non, moi, je te prends tout et je me débrouille à aller à mon rythme. » Alors, au risque et péril, hein, mais je sais que le rythme que je vais proposer ne correspondra pas à tout le monde. Pour certaines, ça sera trop lent, pour d'autres, plus rapide. Ben, c'est ce que je vais proposer dans un premier temps, c'est ce que j'observe qui fonctionne bien. Et puis 3 mois, c'est aussi le temps pour le corps d'enregistrer ce qui se passe et de prendre des bonnes habitudes. Peut-être que d'autres le feront en 5 mois, en 6 mois, peut-être que d'autres le feront en 2 mois. En tout cas, une fois qu'on y a accès, on y a accès à vie, que ce soit la première, la deuxième, la troisième grossesse. C'est mon envie, je ne vais pas retenir les mamans là-dessus, au contraire, pratiquer, pratiquer, pratiquer.
Eh bien écoute, merci en tout cas pour ces conseils, cette vision, cette discussion qui était très enrichissante. Donc je rappelle, hein, je donne le compte Instagram, c'est elsa.dunaigre, hein, comme ça ceux qui sont là sur leur téléphone, ils l'auront. Et puis les liens, je vais bien sûr tous les remettre. Je te souhaite une belle fin de grossesse.
Merci.
Bien entendu, parce que bah ça arrive, hein, tu disais que c'est assez proche. En tout cas, merci. Moi, je vais suivre. Moi, je suis abonné à ton compte, donc je regarde les petits conseils, etc. Tu vois, j'ai 10 tips pour bien réussir ta guerrière, etc. Tu vois, il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien. Je viens grappiller les petites informations, etc. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera. Peut-être bien de yoga, tu vois, si j'arrive à convaincre mon invité d'arriver à enregistrer, peut-être qu'on enchaînera sur le yoga et la course à pied, ou peut-être un autre sujet, ça sera un petit peu la surprise. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Salut Bertrand, merci!
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.